Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Le thème d'aujourd'hui porte sur la prise en charge du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes, défis et perspectives. Au Niger, on constate une forte croissance de malades atteints du paludisme chaque année, pendant la saison des pluies. Mais l'année 2020 est toute particulière en ce sens que le taux des malades du paludisme augmente considérablement. En effet, du 1er janvier 2020 au 7 octobre 2020, au total 2 449 858 cas de paludisme ont été confirmés, dont 2449 décès, a annoncé le ministre de la Santé publique au dernier conseil du ministre du vendredi passé 9 octobre 2020. Le paludisme touche toutes les tranches d'âge, en majorité les enfants et les femmes enceintes. Ainsi, pour faire face à ce pic du paludisme qui devient de plus en plus inquiétant, le gouvernement a pris l'initiative de soigner gratuitement tous les cas de malades. C'est dans ce cadre que nous avons initié ce forum en vue de comprendre comment se fait cette prise en charge du paludisme au Niger chez les couches vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants, mais aussi cerner les avancées enregistrées ainsi que les défis et perspectives. Pour échanger donc autour du sujet, nous recevons dans ce studio Germokoy Hadiza Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci donc d'être avec nous. Et Hamza Jibo, directeur du programme de l'ONG Organisation Nigérienne des Éducateurs Novateurs. Bonsoir Hamza.
Bonsoir.
Et aussi, nous avons eu l'entretien de Albachar Yakuba, spécialiste ORL, également médecin de formation. Et Albachar qui va participer dans ce forum en interview. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Bienvenue à tous et à toutes dans ce forum du studio Kalangou sur la prise en charge du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes au Niger, défis et perspectives. Les femmes enceintes et les enfants constituent des couches vulnérables pendant la saison des pluies où le paludisme fait beaucoup de dégâts. Pour venir en aide à ces populations vulnérables, le gouvernement du Niger, via le ministère de la Santé publique et ses partenaires, collabore pour garantir la prise en charge des malades du paludisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers invités, veuillez donc nous présenter vos structures respectives. Je commence par vous, Germokoy Hadiza Jakou. Vous êtes coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme.
Alors bonjour, le programme national de lutte contre le paludisme est une structure rattachée au ministère de la Santé avec comme ancrage donc la direction des études et de la programmation. Alors nous sommes en charge d'élaborer la politique en matière de lutte contre le paludisme et d'en définir les différentes stratégies de lutte et directives qui en découlent.
Hamza Jibo, vous êtes donc le directeur de programme de l'ONG, Organisation Nigérienne des Éducateurs Novateurs.
C'est une ONG nationale qui œuvre, en tout cas dans le cadre de la lutte contre le paludisme, ou j'allais dire qui accompagne le ministère de la Santé publique à travers le programme national dans le cadre de la lutte contre le paludisme, plus précisément par rapport au volet communautaire. Merci. Voilà.
Je propose à présent de suivre Albachar Yakuba, spécialiste ORL sur la définition du paludisme, les causes et les conséquences. On l'écoute.
Donc, merci madame de m'avoir donné cette opportunité pour parler d'un sujet qui est vraiment un sujet de l'heure. Le paludisme, c'est une maladie endémo-épidémique, une maladie tropicale bien entendu, qui se manifeste cliniquement par des maux de tête, de la fièvre, de la courbature, à un certain stade des vomissements et même de la diarrhée. Et cette maladie endémo-épidémique, bien entendu, parce que en dehors du fait qu'elle sévit sur les 12 mois de l'année, il y a des mois pendant lesquels on observe ce qu'on appelle le pic. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on rencontre beaucoup, beaucoup plus de cas qu'habituellement. Mm-hmm. C'est la période hivernale, c'est la période des pluies, qui est la période propice, bien entendu, à l'éclosion des moustiques, qui donne cette maladie, qui est une maladie connue de tous les Nigériens. Mm-hmm.
Et les différentes formes de paludisme qu'on rencontre ici au Niger?
On parle de paludisme simple lorsque nous sommes au début de la maladie, et on parle de paludisme grave ou compliqué lorsque, pour un début, le paludisme simple n'a pas du tout été traité ou n'a pas été bien traité. Mm-hmm. Donc ça évolue de la simplicité à la complication ou à la gravité.
Et les conséquences que peuvent avoir cette maladie chez les femmes enceintes aussi chez les enfants?
Les conséquences sont assez graves parce que le paludisme peut donner une anémie aussi bien chez la femme enceinte que chez le petit enfant. En dehors de cela, le paludisme crée une forme d'absentéisme. Lorsque un enfant est inscrit dans une école, s'il présente le palu, vous êtes sûr que ces quelques jours-là, pendant lesquels il est couché, il n'ira pas à l'école. Donc ça fait de l'absentéisme. Lorsque vous êtes une femme enceinte, travailleur, même si vous êtes ménagère, j'avoue que vous ne pouvez pas, pendant ces 2-3 jours-là, vous lever pour faire les activités professionnelles ou les activités quotidiennes que vous devez faire. Donc ça fait en sorte que la famille est un peu agenouée sur le plan social et sur le plan économique. Vous n'êtes pas sans savoir que pour prendre en charge un cas de paludisme grave, il faut souvent hospitaliser le malade, il faut le traiter par la voie injectable, il faut souvent mettre des perfusions et cela a un coût.
Vous venez là donc de suivre Al-Bashir Yacouba, spécialiste ORL sur le paludisme, les causes et les conséquences. Madame la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, à l'heure actuelle, comment se présente le paludisme au Niger en général et en particulier la situation épidémiologique chez les enfants et les femmes enceintes?
Alors, merci de nous donner l'occasion de pouvoir suivre l'évolution de cette épidémie, je dirais, puisqu'elle sévit quand même dans 24 districts sur les 72 que nous avons. Alors, vous avez donné tout à l'heure les chiffres de la première semaine à ce que nous appelons la 40e semaine. Et là, je vais vous donner les chiffres actualisés jusqu'à la 41e semaine, puisque entre-temps, cela a quand même évolué. Alors, de la première semaine à la 41e semaine, donc qui va jusqu'au 11 octobre 2020, nous avons enregistré au niveau des formations sanitaires de notre pays 2 690 645 cas confirmés contre 2 033 417 cas confirmés l'année dernière. Ce qui nous donne globalement une différence de 32%, une augmentation de 32%. Mais attention, notons que ces chiffres sont rapportés à la population. Donc la population de 2019 était de 22 314 000 contre 23 196 000 en 2020. Alors, par rapport au décès, de la première à la deuxième, à la 41e semaine, nous sommes passés donc de 2154 décès en 2019 à 2882 cas en 2020 pour la même période. Donc ça, ce sont les chiffres globaux. Alors, lorsque vous éclatez ces chiffres région par région, nous nous sommes rendus compte que l'augmentation des cas de 2020 par rapport à 2019, elle est beaucoup plus importante dans la région d'Agadez, où nous notons une augmentation de plus de 79%, suivi de la région de Diffa, avec une augmentation de 69%, la région de Maradi, avec une augmentation de 44% des cas. Et la dernière région est celle de Niamey qui a enregistré une augmentation de 13% des cas. Lorsque nous regardons également par tranche d'âge, nous nous rendons compte que, effectivement, comme vous le dites, nos cibles, même au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, sont les enfants et les femmes enceintes. Maintenant, lorsque nous prenons les enfants, nous nous rendons compte que l'épidémie est en train de se décaler. Initialement, nous avons les enfants de moins de 5 ans qui étaient les plus concernés. Mais comme vous le savez également, avec les moyens de prévention qui sont déployés, actuellement, l'épidémie est en train de se décaler vers les enfants qui ont plus de 5 ans, donc la tranche d'âge de 6 à 9 ans. Ce qui s'explique par le fait que ces enfants ne sont pas concernés par les campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier et ne sont pas concernés par aussi la distribution de moustiquaires de routine. Alors, je ne dis pas que les enfants de moins de 5 ans ne sont pas atteints. Nous constatons également que malgré le fait que nous ayons organisé les 4 passages, puisque actuellement nous avons fini les 4 passages, les 4 passages de la chimio-prévention du paludisme saisonnier, il y a encore beaucoup d'enfants de moins de 5 ans, lorsque vous regardez au niveau des formations sanitaires, qui sont quand même atteints de paludisme, mais heureusement qu'ils ne glissent pas vers la forme grave. Par rapport aux femmes enceintes également, nous constatons qu'il y a une augmentation du nombre de cas chez les femmes enceintes, malgré là encore toutes les mesures de prévention qui sont déployées.
Madame la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, les autorités en charge de la santé publique ont décidé cette année que la prise en charge du paludisme soit gratuite. Comment donc se fait cette prise en charge sur le terrain?
Je vais quand même corriger en disant que peut-être que les gens ne le savent pas, mais la prise en charge du paludisme a toujours été gratuite. Elle n'a jamais été payante. On a l'impression que c'est payant, mais en réalité, ce n'est pas payant. Les médicaments pour la prise en charge du paludisme sont des dons. Ce sont des dons du Fonds mondial, du gouvernement américain, de l'OMS, parfois de l'UNICEF et des médicaments achetés par l'État qui sont mis en place au niveau des formations sanitaires et qui doivent être donnés gratuitement aux populations. Ce ne sont pas les médicaments que les gens payent. Lorsque les patients se rendent dans les formations sanitaires, ce n'est pas le coût de prise en charge du paludisme qui est facturé. Pour les enfants de moins de 5 ans, vous avez ce qu'on appelle la gratuité. La gratuité, là, l'enfant ne paye pas les autres supports, comme le carnet, le franc, comment il appelle, le franc symbolique, là, qu'il paye, tout ce que le patient doit payer au niveau du COGES. Ça ne nous concerne pas. Les médicaments, que ça soit 0,5 ans, que ça soit femme enceinte, que ça soit adulte, ne sont pas payants. Ce ne sont pas les médicaments qui sont payés. Par rapport aux femmes enceintes, nous avons la prévention. Lorsqu'une femme vient au niveau de la consultation prénatale, elle n'est pas payante. Lorsqu'on donne le fer, l'acide folique et la sulfadoxine pyrimétamine à la femme enceinte, ce n'est pas payant. Ce sont des dons que nous recevons. Nous ne pouvons pas les vendre. Lorsque la femme reçoit sa première moustiquaire pour la première consultation prénatale, ce n'est pas payant. Lorsque les enfants arrivent en consultation au niveau d'un CSI, ce ne sont pas les médicaments que le patient paye. C'est, encore une fois, ce sont les supports. Que ça soit 0,5 ans, que ça soit 6-9 ans, que ça soit plus de 9 ans, les médicaments, encore une fois, sont donnés gratuitement, que ça soit pour la prise en charge des cas simples, donc les comprimés, et la prise en charge des cas graves.
D'accord. Hamza Jibo, vous êtes le directeur de programme de l'ONG, Organisation nigérienne des éducateurs novateurs. Vous êtes une structure qui œuvre dans le domaine de la santé. Quelle appréciation faites-vous de l'annonce faite par le gouvernement dans le cadre de la prise en charge gratuite donc, des maladies du paludisme?
Ok, merci. Effectivement, nous, en tant qu'acteurs de la société civile qui accompagne le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le paludisme, nous ne pouvons que nous réjouir en tout cas de toutes les dispositions. C'est pas seulement la question de la confirmation de la gratuité, parce que moi je suppose que c'est une confirmation, parce que ça, c'est déjà quelque chose qui est là, qui est un dispositif intégré au niveau du système de notre santé, la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans
et
les femmes enceintes en consultation prénatale. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de toutes ces dispositions et nous sommes là, nous sommes prêts aussi à accompagner le gouvernement pour que vraiment ces mesures-là puissent être vraiment internalisées au niveau communautaire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Madame la coordinatrice, elle est en train de nous dire tout ce qui est, toutes les dispositions qui sont prises et tous les dispositifs qui est sur place au niveau du système de la santé, au niveau des centres de santé, au niveau de nos formations sanitaires. Mais c'est que, en réalité, parfois, ce que nous constatons, en fait, les bénéficiaires n'ont pas la bonne information. Et quand tu n'as pas la bonne information, en fait, parfois, il y a même quelque chose qui est là pour lequel tu vas bénéficier, mais comme tu n'as pas l'information, tu ne pourras pas en bénéficier. Donc c'est devenu comme un droit, mais comme tu n'as pas d'informations sur ton droit même, tu ne peux vraiment pas avoir ce droit-là.
Oui, voilà. Hamza Djibo, c'est là, il dit à quoi?
Voilà. Donc nous estimons que il y a deux points essentiels par rapport donc à cet aspect. Le premier aspect, c'est vraiment l'aspect communicationnel. Et le deuxième aspect, c'est la responsabilisation même de la communauté pour qu'elle puisse être vraiment actrice, pas spectatrice des services qu'on lui offre. Il faut qu'elle soit responsabilisée. Donc, pour le volet communication, je crois que Madame la coordinatrice reviendra là-dessus. Il y a tout un dispositif qui est là pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse informer, pour qu'on puisse sensibiliser les communautés. D'abord, aujourd'hui, quand vous donnez une moustiquaire imprégnée à un ménage ou à une femme enceinte, ou en tout cas à un individu X, c'est vrai, on lui donne la moustiquaire imprégnée. Mais il faut qu'il comprenne en quoi cette moustiquaire imprégnée-là peut l'aider à prévenir le paludisme.
Oui, en troisième, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler des médecins donc, qui donnent des conseils?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, les médecins donnent des conseils.
Oui.
Mais aujourd'hui, nous estimons que effectivement, les médecins donnent les conseils, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous prenez actuellement la situation dans laquelle nous sommes, où nous vivons un pic de paludisme, le médecin, est-ce qu'il va s'occuper du malade, de tous les malades? Je ne sais pas si vous avez fait un tour dans nos formations sanitaires.
Si.
Vous avez vu la gestion. Est-ce que vous pensez que ce médecin-là aura tout le temps de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser, ou bien il va s'occuper de la prise en charge? Et donc, nous, c'est pourquoi on dit que nous, les acteurs de la société civile, nous sommes là pour accompagner le gouvernement, pour qu'il y ait ce volet sensibilisation, communication. Et par rapport au volet responsabilisation, c'est effectivement le renforcement des capacités des communautés. Madame la coordinatrice a parlé tout à l'heure de COGES. C'est la communauté qui doit être responsabilisée par rapport à la prise en charge, qui doit être responsabilisée par rapport au suivi. Est-ce que, par exemple, la moustiquaire imprégnée qu'on a donnée dans un ménage, est-ce que le ménage utilise la moustiquaire imprégnée? Est-ce que, par exemple, une femme enceinte qui est là au niveau du village, est-ce qu'elle suit, en fait, les rendez-vous par rapport à la CPN, aux consultations prénatales? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas des ménages où les chefs de ménage empêchent à la femme d'aller en CPN? Parce que si elle ne va pas, elle va pas en CPN, tout ce que le dispositif que Madame la coordinatrice vient de dire, elle ne pourra pas bénéficier. Il faut bien qu'elle se présente en CPN, en consultation au niveau des centres de santé.
Merci Hamza, je reviens vers la coordinatrice du programme en PALU. À l'instar des autres pays de la sous-région, donc la lutte contre le paludisme au Niger repose sur des stratégies recommandées par l'OMS. Que faut-il retenir de ces stratégies, Madame la coordinatrice du programme PALU?
Oui. Comme vous l'avez dit, tout ce que nous faisons est aligné avec les recommandations de l'OMS. Et c'est pour cela que nous mettons régulièrement à jour nos documents en fonction donc des nouvelles recommandations de l'OMS. Nous sommes les pays d'Afrique Sahel, membres d'une initiative qui harmonise toutes nos stratégies de lutte, puisque nous menons certaines activités transfrontalières qui nous permettent, chacun à ce qui nous concerne, en fonction des contextes d'insécurité, de mener les activités de lutte contre le paludisme. Alors, nous avons des activités, des stratégies de prévention et nous avons des stratégies de prise en charge. Alors, pour la stratégie de prévention, nous avons la grande campagne de distribution de moustiquaires que vous connaissez, que nous organisons de façon annuelle, soit dans des régions, puisque ce sont des cycles de 3 ans. Nous estimons que les moustiquaires doivent être renouvelés tous les 3 ans. Donc, il y a cette distribution de moustiquaires en campagne, imprégnée d'insecticides, et les insecticides même et qui sont imprégnés au niveau des moustiquaires sont suivis. Donc, actuellement, je reconnais qu'il y a des résistances par rapport à ces insecticides avec lesquels nous imprégnons les moustiquaires, et nous sommes en train de les changer progressivement et d'adapter en fonction des tests que nous faisons. Nous sommes en train de changer les insecticides et à partir de 2021, Inch'Allah, nous aurons des moustiquaires de dernière génération, comme nous les appelons. Alors, nous avons parallèlement la distribution des moustiquaires en routine. Donc, lorsque nous faisons une grande campagne, ça n'empêche que au niveau des formations sanitaires, quand vous allez, il y a des moustiquaires qui sont positionnés et nous n'avons jamais de rupture de stock par rapport à cela. Pour les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale, je précise, qui viennent en consultation prénatale, parce que comme Hamza a eu à le souligner, il y a un problème de communication, un problème de fréquentation même des formations sanitaires pour les consultations prénatales. Donc, la femme qui se présente à sa première consultation prénatale bénéficie d'une moustiquaire. Mais elle bénéficie aussi d'autres choses. Les médicaments que nous appelons la sulfadoxine pyrimétamine pour la prévention pendant la grossesse. Donc, initialement, une femme enceinte doit faire 8 consultations prénatales. Mais parfois, lorsque vous regardez, elle n'en fait que 2. Parfois une seule pendant toute la durée de sa grossesse. Alors que pendant les 8 consultations, elle devrait bénéficier de ces médicaments. Mais elles ne viennent pas. Et il y a, c'est vrai, des phénomènes socioculturels qui font que les femmes préfèrent cacher leur grossesse avant 3-4 mois. Ce qui fait que pendant tout ce temps-là, la femme n'est pas couverte. Ça, c'est par rapport à la prévention. Il y a aussi toutes ces campagnes de sensibilisation que nous menons, qui sont insuffisantes, je le reconnais, qui sont insuffisantes parce qu'il s'agit vraiment de changement de comportement. Tant qu'il n'y a pas de changement de comportement, tout ce que nous faisons, je ne dirais pas qu'il est... qui n'aura aucun impact, mais il n'aura pas l'impact suffisant que nous souhaitons.
Parlons donc du comportement. Est-ce que ces moustiquaires ne sont pas toujours utilisés par les bénéficiaires?
Alors, lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement au Niger, juin 2020, nous avons partagé 8 millions de moustiquaires, ce qui suppose que 13 millions au moins de personnes sont couvertes. Si réellement ces populations utilisaient les moustiquaires. Sans compter les 200 000 qui ont été partagés par rapport à la routine. Si réellement les populations utilisaient les moustiquaires distribués, vous pensez qu'on aurait autant de cas? Mais elles sont où ces moustiquaires? Alors, deux choses l'une. On les a revendues, parce que ça aussi on l'a vu. C'est pour cela qu'on découpe le sachet avant de donner aux populations. Elles sont cachées quelque part dans des caisses ou dans des armoires. Elles sont installées, mais on ne se couche pas dessous. Puisqu'il y a tellement aussi de tabous, de croyances par rapport à ces moustiquaires. Elles sont utilisées pour la pêche, ça aussi on l'a vu. Elles sont utilisées dans les jardins, ça également on l'a vu. Ou alors, elles sont bien positionnées sur le lit, mais on passe la soirée au niveau des fadas. Et on rentre se coucher après avoir été bien piqué par les moustiques. Donc, quel que soit nous ce que nous faisons, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience et ce changement de comportement, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous voyez, dans la ville de Niamey jusqu'à 21h, 22h. Parfois, vous rencontrez des enfants qui sont en train de se promener, en train de s'amuser. Mais le moustique commence à piquer à 19h. Donc, l'enfant a eu tout le temps de se faire piquer.
Voilà. Avant donc de continuer ce forum, je vous propose de suivre le témoignage de quelques parents, donc des enfants malades que nous avons rencontrés au niveau des centres de santé.
Le paludisme de cette année est tout différent des autres années. Ma fille est malade. Quand on l'a menée à l'hôpital Poudrière, les médecins ont mis beaucoup de temps avant de s'occuper d'elle parce qu'il y a tellement de malades. Nous avons fait 3 jours en hospitalisation, mais j'ai payé tous les traitements. On parle de prise en charge du paludisme. Mais tu sais, le gouvernement dit des choses qu'il n'ignore pas.
Cette année, il y a beaucoup de palus dans les centres de santé. Tout le monde paye les médicaments. Il n'y a pas d'enfants ou grands. Mon petit-fils est malade, atteint du palu. On n'a rien reçu comme gratuité. Nous avons payé les médicaments à la pharmacie. Ce n'est pas vrai, leur gratuité.
Dans les centres de santé, même il y a la gratuité, ce n'est pas tous les médicaments qu'on donne. Des fois, nous payons à la pharmacie, mais je salue le fait que l'État distribue des moustiquaires et même des comprimés pour prévenir le paludisme chez les enfants et les enceinte. Mais avec tout ça, la maladie augmente vraiment.
Vous venez là donc de suivre le témoignage de quelques parents d'enfants malades que nous avons rencontrés dans les centres de santé. Quelle est votre réaction? Je commence par vous, Hamza Jibo. Vous êtes le directeur de programme de l'ONG ONEN.
Merci bien. Et effectivement, j'ai bien suivi en tout cas ces témoignages des parents. Je redis encore ce que j'ai déjà à dire. En fait, nous sommes vraiment dans une situation très compliquée, où la communication ne passe pas. Les parents ne savent pas qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas gratuit. Et du coup, ça crée une confusion au niveau même des centres de santé. Et cette confusion, parfois, en tout cas, ça complique, ça a des répercussions sur tout le système de prise en charge. Donc c'est ça aujourd'hui nous vivons, c'est ce que nous vivons actuellement. Et tout à l'heure, j'ai entendu en fait les parents qui disent qu'il n'y a pas de gratuité. Et moi, je suis sûr que si ces parents-là, je suis sûr et certain, si ces parents-là, on doit leur présenter toute la facture de tous les services pour lesquels ils ont bénéficié au niveau du centre de santé, ils vont se rendre compte qu'il y a la gratuité, c'est vrai. Mais aussi, d'un autre côté aussi, et il faut que ce qui a été dit, qui est gratuit là, il faut aussi que le gouvernement puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça puisse être effectif. Vous avez vu ce que la lettre du gouverneur de la région de Niamey, j'espère que vous l'avez vu, et vous avez vu aussi les passages, les visites inopinées que le ministre de la Santé a eu à faire au niveau des centres de santé.
Oui, Monsieur Hamza Jibo, pouvez-vous donc nous rappeler qu'est-ce qui est dit dans cette lettre?
Voilà, dans cette lettre, c'est par rapport à la question des raquettages. Et ça, c'est une réalité dans nos centres de santé. Il y a effectivement des agents de santé qui profitent de cette confusion. Je ne dis pas que c'est tous les agents de santé qui font ça, mais il y a quand même des personnes qui profitent de cette confusion pour racketter les malades. Et du coup, la population se décourage. La population, comme aujourd'hui, la bonne dame là qui est en train de témoigner, est-ce que vous pensez que si demain son enfant encore tombe malade, est-ce qu'elle aura le courage de retourner au niveau des centres de santé? Ce n'est pas évident. Donc, moi, je pense que au niveau des centres de santé, au niveau de toute la chaîne, il faut que le gouvernement puisse prendre les dispositions nécessaires. Ça, peut-être, c'est pas pour le programme. Le programme met en place les intrants, le programme met en place les autres. Mais le gouvernement est à tous les niveaux. Et ça, on devrait aussi, pas seulement le gouvernement, il faut que toutes les parties prenantes puissent être responsabilisées. Il faut que toutes les parties prenantes puissent vraiment être comment dirais-je, impliquées pour vraiment faire face à ces fléaux.
Oui, merci, voilà. Monsieur Hamza. Nous allons à présent écouter Madame la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Vous venez de suivre le témoignage des parents des enfants malades que nous avons rencontrés dans les centres de santé. Et que dites-vous?
Bon, là, encore une fois, c'est un problème de communication.
C'est une insuffisance de communication. Là.
Insuffisance de communication. Pourquoi? Je le dis et je le répète. La prise en charge du paludisme, elle est gratuite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les médicaments, lorsque nous prenons l'artesune pour la prise en charge d'un cas grave, comme ce qu'elle a eu à le dire au niveau de l'hôpital Poudrière, c'est l'artesune qui est gratuit. Mais attention, cas grave d'un palud, ça veut dire quoi? Ça veut dire paludisme plus signe de gravité. Mais ces signes de gravité là, ils ont des traitements. Et le traitement de ces signes de gravité, je suis désolée, ce n'est pas l'artesune. Aujourd'hui, vous avez un malade qui a 40 de fièvre. Il lui faut du paracétamol. Ça, nous ne le donnons pas, le paracétamol. Il faut un cathéter pour administrer le produit. Il faut un perfuseur. Qu'est-ce qui tue actuellement les enfants? C'est l'anémie. Vous avez un enfant qui arrive, il a 2 grammes, il a 4 grammes d'hémoglobine. Ça, c'est le sang qu'il faut donner. Et ça, c'est les populations qui doivent donner le sang. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète.
Donc,
et
ces
c'est
cas graves-là ne sont pas donc pris en charge par le gouvernement, ces cas graves de paludisme.
Ces cas graves de paludisme sont pris en charge gratuitement, encore une fois, pour la tranche d'âge de 0-5 ans. Là, tous les consommables dont je vous parle sont donnés gratuitement. Mais lorsque vous avez un enfant de plus de 5 ans qui vient dans un cas grave, peut-être que ces consommables lui seront avancés, mais ils seront obligés de les acheter. Parce que ça, ce n'est pas donné gratuitement. Pour administrer ce produit, on a besoin de consommables. Mais le produit est gratuit. Voilà ce que nous appelons gratuité. Peut-être que, encore une fois, c'est un déficit de communication. Le produit est disponible. Mais pour administrer le produit, ça a un coût. Et c'est ce coût-là qui est facturé aux enfants ou aux patients. Lorsque vous prenez l'artesune, c'est administré par kilo de poids. Vous pouvez avoir deux patients du même âge qui auront besoin de nombre de flacons différents en fonction de leur poids. Alors, un flacon d'artesune, lorsque vous l'achetez en pharmacie, il coûte 3 225. Mais là, on vous le donne gratuitement. Vous pouvez avoir besoin de 3 flacons le même jour, ce qui fait 10 000. Pour un traitement de 5 jours, 10 000 fois 5, ça fait 50 000. Je n'ai pas vu un patient qui a payé, en tout cas, un produit contre le paludisme à 50 000 francs dans une formation sanitaire publique. Ce n'est pas possible. C'est même impossible. Ce qui est facturé, encore une fois, ce sont les consommables qui permettent d'administrer donc les produits.
Madame la coordinatrice, vous avez effectué ce lundi 12 octobre 2020 une visite au niveau de l'ONPPC, l'Office national de produits pharmaceutiques et chimiques, donc pour s'enquérir de la disponibilité des médicaments. Est-ce que l'ONPPC dispose vraiment d'une quantité suffisante de produits pour répondre aux besoins des populations?
Le programme national de lutte contre le paludisme mobilise l'État et les partenaires pour acquérir des médicaments. Ces médicaments sont positionnés au niveau de l'ONPPC qui en assure la mise en place dans les districts. Nous avons mobilisé plus de 3 millions de traitements depuis le début de l'année. Et c'est ces traitements-là qui sont positionnés à l'ONPPC et l'ONPPC assure progressivement la mise en place. Je suis allée pour constater d'abord le stock restant. Et vous l'avez vu, nous avons un stock confortable au niveau de l'ONPPC, aussi bien en test de dépistage rapide qu'en sulfadoxine, périmétamine. Pour la femme enceinte, le stock que nous avons peut même couvrir l'année 2021 et entamer même l'année 2022. Nous avons un stock restant assez important en AQSP, je vais abréger, pour la prévention chez les enfants, qui va nous permettre d'entamer la campagne de l'année prochaine. Nous avons un stock de plus de 250 000 ampoules actuellement pour la prise en charge des cas graves. Et nous avons un stock de prise en charge des paludismes simples. Le seul stock où nous n'étions pas confortables jusqu'à avant-hier, c'était les plaquettes qu'on appelle 18-24 pour les grands enfants et les adultes. Mais là, nous venons d'en recevoir et nous sommes allés pour constater l'arrivée, puisque nous attendions une commande qui était bloquée du fait de la pandémie de COVID et que nous venons de réceptionner. Et là, nous avons fait le programme de mise en place au niveau des districts de tous ces médicaments. Alors, 1 700 000 tests qu'on vient de recevoir, plus le stock restant, 1 500 000 traitements que nous venons de recevoir, plus le stock restant, 650 000 ampoules d'Artesoun que nous venons de recevoir, et nous avions un restant qui était là de plus de 200 000 traitements, sans compter donc les moustiquaires aussi qui arrivent par vague.
Voilà. Merci Madame la coordinatrice. Donc à présent, nous allons suivre Al-Bachir Yacouba, médecin et de formation sur les suggestions en vue d'une meilleure prise en charge des cas du paludisme.
Là où les suggestions que je vais avoir, c'est de demander au programme PALU, bien entendu, à travers le ministère de la Santé publique, de redoubler d'efforts pour que tous les Nigériens, où qu'ils se trouvent, aussi bien les enfants, les femmes enceintes et tous les autres citoyens, parce que le PALU n'épargne personne. Ce n'est pas comme la rougeole, où si vous faites ça une fois, vous ne ferez plus de rougeole. Le paludisme, vous pouvez être traité, le traitement est mal fait, ça va faire ce qu'on appelle la rechute. Vous allez faire ça en 2020, vous allez le refaire en 2021, peut-être 2, 3, 4, 5 fois. Donc, il faut vraiment que le ministère s'arme du maximum d'arsenal pour que l'état de santé des citoyens, particulièrement par rapport au paludisme, soit fait de manière assez évidente. Maintenant, par rapport aux populations, principalement les mères de famille, vraiment les moustiquaires, on ne nous les donne pas à titre d'ornement. On nous les donne pour que nous les utilisions afin de prévenir ces fléaux qui est là avec nous pendant des années et qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas, même pas d'un pas vers l'arrière. Donc vraiment, il faut que chacun, aussi bien les mères que les pères de famille, continue à sensibiliser, continue à s'impliquer, continue à se dire, si je ne fais pas ça à titre de prévention, ce qui va arriver va me coûter plus cher. Et pour cela, il faut vraiment utiliser de manière totale et efficace les moustiquaires qui sont mis à la disposition de presque toutes les familles, souvent de manière gratuite.
Je reviens vers vous, Hamza Jibo. Quelles sont vos suggestions en vue d'une meilleure efficacité de lutte contre le paludisme au Niger?
Ok, merci bien. Et je l'ai dit et je le répète. En tout cas, en termes de suggestions, nous estimons qu'il faut vraiment, je l'insiste, qu'il faut responsabiliser la communauté. Il faut que la communauté soit vraiment elle-même actrice de tous ces actes que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant malade au niveau d'une famille ou bien en tout cas au niveau d'un ménage donné, nous voyons, nous constatons sur le terrain qu'on ne se réfère pas au centre de santé à temps. Parfois, il faut attendre que la maladie, en tout cas le paludisme, devienne un cas grave. Très souvent, au niveau communautaire, surtout dans les zones rurales, c'est ce que nous constatons. Le deuxième aspect, c'est par rapport à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée.
Donc, ça, Hamza Jibo, oui. Il est important
de se rendre au niveau des centres de santé le plus tôt possible. Dès que vous constatez que votre enfant a la fièvre, vous avez passé la nuit avec lui ou pas, le matin, ou en tout cas vous constatez, en tout cas vous sentez que votre enfant a la fièvre, il faut automatiquement se référer au centre de santé. Et c'est ce comportement-là qui va vous permettre de ne pas tomber dans tout ce que nous avons. Les témoignages là que nous avons au niveau des centres de santé, je suis sûr et certain, c'est des cas de palu grave. Alors que si vous avez fait le réflexe de vous référer au niveau des centres de santé, vous allez avoir la prise en charge appropriée et vous allez avoir en tout cas, vous aurez en tout cas sauvé votre enfant. Mm-hmm. Parce que le cas de PALI simple, et pour ne pas me répéter, c'est plus simple à prendre en charge. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est par rapport à l'utilisation des moustiquaires. Vraiment, il faut que les communautés comprennent que quand on donne une moustiquaire imprégnée, comme il l'a dit effectivement notre ami de CISA, donc c'est pas pour vraiment pour orner nos maisons, ce n'est pas pour aller couvrir les plans. L'autre aspect, je voulais insister là-dessus, je voulais insister, je voulais juste prendre le dernier point là, parce que c'est important, c'est aussi par rapport aux dispositions à prendre au niveau du ministère de la Santé. Il faut que le ministère de la Santé aussi puisse responsabiliser les acteurs de la société civile pour faire ce que nous appelons une veille citoyenne. Parce que parfois, le ministère de la Santé met à la disposition en tout cas des centres de santé, des régions, des districts, les intrants. Je vais finir,
merci,
je vais conclure.
Je donne la parole à Madame la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Madame la coordinatrice, vos suggestions pour une meilleure prise en charge donc, du paludisme, surtout chez les enfants et les femmes enceintes.
Vous savez, nous avons un problème ici. Et encore une fois, c'est l'information et la communication. En fait, il faut que nous comprenions qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a ce que nous appelons la pyramide sanitaire. Un malade qui a un paludisme simple, par exemple, ou qui a le palud tout court, ne peut pas se lever et aller, par exemple, à l'hôpital. Je prends l'exemple de Niamey, à l'hôpital régional. C'est pas possible. Vous allez à l'hôpital régional aujourd'hui avec une goutte épaisse positive, sans signe de gravité. Soyez sûr que, quel que soit votre âge, vous allez sortir avec une ordonnance. Pourquoi? Ces centres ne sont pas habilités à prendre en charge des paludistes simples. Un moment, tu te lèves aujourd'hui, ton enfant est malade, ta première référence, c'est le CSI.
Oui.
Le CSI, ils ont les médicaments pour la prise en charge des cas simples. Et ils sont tenus de remettre à la mère ces médicaments. Oui. Maintenant, attention, lorsque l'agent de santé constate un signe de gravité que lui ne peut pas prendre en charge et qu'il doit forcément référer au centre hospitalier, il lui fait un papier de référence et contre-référence qui lui donne droit à la gratuité. Pourquoi? Parce que lorsque la personne se présente au CHR sans ce papier de référence contre-référence, il n'a pas le droit. Tu ne peux pas accéder gratuitement parce que l'agent de santé doit rendre compte. Et il rend compte sur la base d'un document.
Oui, Madame la coordinatrice, nous sommes presque à la fin de ce forum. Sur quoi faut-il mettre l'accent rapidement?
Il faut mettre l'accent sur le recours rapide aux soins. Le traitement du paludisme, encore une fois, qu'il soit simple, qu'il soit grave, il se fait par kilo de poids par jour, avec des horaires à respecter. Lorsque vous le faites mal, soyez sûr que vous allez passer à côté des choses. Et utilisez, encore une fois, je le dis toujours, les moyens de prévention mis à votre disposition. Un enfant de moins de 5 ans qui a bénéficié de la chimio-prévention du paludisme saisonnier ne doit pas faire le palud. S'il le fait, ça veut dire que la mère n'a pas donné.
Voilà, merci, merci Madame la coordinatrice du programme PALU. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangou qui porte sur la prise en charge du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes au Niger, défis et perspectives. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités par rapport à cette thématique. Malgré des efforts fournis par le gouvernement, beaucoup reste à faire pour faire face à cette maladie. Nos invités estiment que l'État doit davantage mettre beaucoup l'accent sur la sensibilisation et la communication des populations. Nous étions dans ce studio avec Germe Kouhadiza Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, et aussi Hamza Jubo, le directeur de programme de l'Organisation nigérienne des éducateurs novateurs, et nous avons pris en interview Al-Bashir Yacouba. La présentation est assurée par Fatih Zakari.